Ok, tout le monde a un texte. Ok. Donc, je vais lire Philippiens 1 et les versets 1 à 11. Ok. Philippiens 1. Paul et Timothée, serviteurs du Christ Jésus, à tous les saints en Christ Jésus qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous. Je ne cesse dans toutes mes prières pour vous tous de prier avec joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Et je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Christ Jésus. Il est juste que j'aille pour vous de telles pensées, parce que je vous porte dans mon cœur et que, dans mes chaînes, comme dans la défense et l'affermissement de l'Évangile, vous participez tous à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Christ Jésus. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité. Qu'ainsi vous sachiez apprécier ce qui est important afin d'être sincère et irréprochable pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Alors, que va-t-il se passer pour vous dans cette nouvelle année 2013? C'est le moment où on a tous soit nos désirs, nos espoirs pour l'année, soit plein de questions et des soucis peut-être. Et on n'a aucune idée de ce qui va se passer. C'est le moment aussi où il y a plein de leaders soi-disant chrétiens qui sortent leurs prophéties, leurs prédictions pour l'année. Souvent c'est le pays sera un cata, mais mon ministère sera chouette, bizarrement. Mais je pense que je peux vous dire que c'est vraiment un bon moment pour lire cette lettre. Je pense que cette lettre aura beaucoup à vous dire à propos de ce qui va se passer en 2013. Mais je le dis non pas parce que j'ai une certaine prévision de ce qui va se passer, mais juste parce que la lettre contient plein de choses qui font partie de la vie chrétienne normale. Et donc, il contient des choses qui vont se passer en 2013, mais aussi dans toutes les années après. Et donc, c'est une super lettre à étudier, c'est un super moment pour l'étudier, pour considérer, pour se préparer. Et donc, c'est une joie de l'étudier. Donc, parmi ces éléments de choses essentielles de la vie chrétienne normale, Paul va parler de la joie, l'amour et l'humilité. Il va parler de la foi et la prière, la sanctification, le progrès dans la foi et la sainteté, la sagesse, et oui aussi la souffrance et la persécution. Et notez bien, j'ai dit, c'est la vie chrétienne normale, pas la vie chrétienne exceptionnelle, et j'en contiens. La souffrance et la persécution. Et tout cela se trouve dans le contexte de la communion, ou on pourrait dire le partenariat. Donc c'est la communion avec Jésus et avec son peuple. Et l'idée de communion se trouve partout dans cette lettre. Mais il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Pour certains peut-être, la communion c'est juste que on sait, mais c'est sympa. Mais version chrétien, où on passe un bon moment, on a une bonne collation après la fin, hein, c'était un bon moment de communion fraternelle, même si j'étais juste en train de manger des chips et parler du foot. Ça, parce qu'on est chrétien, c'est la communion fraternelle. Mais en fait, dans la Bible, c'est vraiment l'idée de partenariat, c'est un mot très actif. C'est pas juste qu'on s'aime, qu'on s'aime bien, on s'aime, mais aussi on travaille ensemble. On est ensemble pour quelque chose. C'est vraiment un partenariat. Et donc on va croiser cette idée, surtout aujourd'hui, mais tout autour de la livre. Mais j'ai une idée très originale, on va commencer au début. Donc, regardons le verset 1. Paul a écrit de la part de lui-même et de Timothée. Il écrit aux saints, c'est-à-dire les chrétiens, qui sont en Jésus-Christ et qui sont à Philippe. Et il écrit aussi aux évêques, ou les surveillants, et les diacres, ou les serviteurs. Et donc, il écrit à une église. Et donc, je pense qu'il faut, faire, au début de cette série dans Philippiens, quelques petites remarques pour vous rappeler comment on fait l'application pour la Bible, surtout pour une lettre comme ça, qui est écrite à une église. Donc, vu qu'il contient toute la structure de l'église, il faut le voir comme une lettre pour une église. Pour vous, peut-être, il y a certains... Vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas croyant, vous êtes juste intéressé et vous voulez découvrir, c'est super, bienvenue, c'est vraiment magnifique que vous soyez là. Il faut avouer, cette lettre n'est pas pour vous d'abord. En fait, il n'est pas pour nous d'abord non plus. Cette lettre est d'abord pour les chrétiens philippiens. Cette lettre n'était pas écrite à nous, c'était écrite aux Philippiens. Mais vu que c'était pour une église, et c'était distribué parmi des églises à l'époque, et bien sûr depuis, parce que c'est dans la Bible, c'est pour des églises. Mais si vous n'êtes pas croyant, c'est pas pour vous d'abord. Mais c'est pas pour autant que vous n'allez pas vraiment profiter de ces études. C'est vraiment une super lettre pour vous de voir à quoi ressemble la vie chrétienne normale. Si vous voulez voir c'est quoi un chrétien, vous allez vraiment voir une idée de ce que ça veut dire de suivre Jésus. Il y a des problèmes, il y a des soucis, mais vous allez voir à quoi ça ressemble. J'imagine que pour la plupart de vous, vous êtes chrétien, vous êtes jébusien régulier, vous êtes engagé dans une église. Et donc, pour vous, l'application... Et pour vous, mais pas d'abord en tant que jébusien. Vous êtes là en tant que jébusien, mais l'application vient pour vous d'abord en tant que chrétien et membre d'église. Après, il y a des implications très importantes pour les GBU et comment on vit cette vie de jébusien. Mais ça vient vers vous d'abord en tant que chrétien et membre d'église. Il y a peut-être, je ne sais pas, il y a peut-être une troisième catégorie de personnes qui, peut-être vous vous êtes confié à Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, mais vous ne faites pas partie d'une église locale. Vous venez au GBU, mais pour vous, l'église, non merci, je préfère moi et ma Bible. Je préfère juste moi et Jésus, mon Seigneur. Et parfois, il y a des raisons, et parfois c'est compliqué, mais... Je dirais la plupart du temps, il s'agit juste d'être désobéissant à notre Seigneur. Et cette lettre n'est pas pour vous d'abord non plus. Elle est bientôt pour vous, j'espère. C'est une excellente résolution à avoir. Si cette lettre n'est pas d'abord pour vous, j'espère qu'elle sera bientôt pour vous. Que ce soit parce que vous n'êtes pas croyant ou que ce soit parce que vous n'êtes pas dans une église. Mais j'espère que vous allez quand même profiter de voir à quoi ressemble la vie normale chrétienne. Et entre-temps, j'espère que vous allez trouver une église. Et vous connaissez le chemin à une église déjà. Il y a une église qui se réunit ici. Il y a plein de gens qui peuvent vous aider à en trouver. Mais il faut faire partie de ça pour bien comprendre ce que c'est la vie chrétienne. Et donc, le verset 2. Et là, on voit que vraiment, c'est un privilège de faire partie du peuple de Dieu et d'être engagé dans la vie d'Église, la vie du peuple de Dieu, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et ceux parmi vous qui ont fait l'étude, qui ont lu toute la lettre, on remarquait qu'à la fin de la lettre, il va dire que la grâce de Jésus soit avec vous. Et c'est ce que Paul fait toujours dans ses lettres. Il commence toujours avec une phrase qui ressemble plus ou moins à « la grâce à vous ». Il dit « la grâce vous soit donnée », mais littéralement c'est « la grâce à vous ». Et après, à la fin, c'est « que la grâce soit avec vous ». Et il y a une interprétation que je trouve très utile, que je trouve assez correcte, c'est qu'il commence comme ça parce que cette lettre, c'est une expression de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est en train de s'exprimer envers vous en ce que Paul vous parle, en ce que Paul vous explique les choses, en ce que Paul vous encourage, vous aide. Et la grâce de Dieu vient envers vous. Et donc il dit « grâce à vous ». Et il parle, et à la fin, « que la grâce soit avec vous ». C'est-à-dire que toute cette grâce que vous avez reçue, qu'elle reste avec vous, qu'elle continue à vous encourager, que vous puissiez vraiment le vivre dans vos vies. Et donc c'est comme ça qu'il ouvre cette lettre. Mais pour introduire cette lettre, il a, après les versets 3 à 11, c'est la vraie ouverture à cette lettre. Et dans cette partie, il introduit la lettre en général, il introduit aussi les thèmes de la lettre, et il exprime ses prières pour eux. Et tout cela est très tissé ensemble. C'est un passage assez dense, c'est un passage très très riche. Vraiment, je pense que je ne suis pas un prédicateur expérimenté, mais je pense que même moi, je pourrais trouver de quoi prêcher pendant 11 prédications sur les 11 versets. C'est tellement le passage est riche. Mais j'aimerais focaliser sur 3 observations dans ce passage pour essayer de comprendre ce que Paul est en train de faire dans ce passage. La première chose que j'aimerais voir, c'est la confiance de Paul en la miséricorde de Dieu pour les Philippiens dans le passé. La confiance de Paul en la miséricorde de Dieu pour les Philippiens dans le passé. On est à peu près 10 ans après le démarrage de cette église à Philippe. Donc, Paul avait prêché l'évangile à Philippe. Il y a plusieurs personnes très différentes qui ont cru. Cette église a démarré. On est 10 ans plus tard. Et Paul pense un peu à ce premier jour. Vous voyez, au verset 5, à cause de la part que vous prenez à l'évangile, depuis le premier jour. L'Église existe déjà, toujours. Elle a commencé, elle est toujours là. Il y a plein de choses qui peuvent se passer en 10 ans. Juste réfléchissez-y, où étiez-vous il y a 10 ans? Que faisiez-vous? Il y a plusieurs choses qui changent en 10 ans. Et le verset 6 aussi, il parle de une œuvre bonne qui a commencé. Il est persuadé que là, il y a 10 ans, il y avait une œuvre bonne qui a commencé. C'était vraiment quelque chose de magnifique qui a commencé. Ça fait penser peut-être, pour moi au moins, aux paraboles du semeur que Jésus a raconté. Donc, il y a la semence qui va sur 4 sols différents et un sol sur 4, il oublie complètement. Et un sol sur 4 a vraiment tenu. Il a vraiment poussé, il a vraiment grandi. 2 sols sur les 4 ont commencé en recevant cette message avec joie. C'était vraiment super. Et donc, il y a 10 ans, il paraissait que c'était vraiment super. Mais est-ce que cette église va aller endurer, persister? Et si cette église a continué. Donc, ils ont vraiment reçu. Quand ils ont dit qu'ils ont reçu l'évangile, ils ont vraiment, vraiment reçu. Ce n'est pas toujours tout le monde qui semble avoir cru, qui croit. Mais ici, il paraît qu'ils ont vraiment cru. Et cette confiance qu'a Paul dans leur passé, dans la miséricorde de Dieu pour eux, dans le passé, lui mène à une joyeuse reconnaissance. Donc sa confiance dans la miséricorde de Dieu lui mène à une joyeuse reconnaissance. Si on lit les versets 3 et 4, donc je vais les relire. « Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous. Je ne cesse dans toutes mes prières pour vous tous de prier avec joie. » Alors, juste regardez, il y a le mot « tout » dans une forme ou d'une autre. Je pense qu'il y a au moins 4 fois dans une phrase. Et c'est presque exagéré, cette joie, cette reconnaissance. Ok, on comprend, hein. Mais parfois, peut-être, il dit « vous tous », parce que plus tard, on va voir, il y a des disputes. Et donc, il dit « j'ai prié pour vous tous, je me remercie de Dieu pour vous tous, pas juste une partie, mais pour vous tous ». Mais aussi, il y a cette idée « chaque fois que je me souviens de vous, je remercie Dieu pour vous tous, et c'est vraiment super, et c'est toujours, et c'est magnifique, et je vous aime bien ». Et c'est cette reconnaissance, vraiment, c'est vraiment joyeux. Imaginez quelqu'un que vous connaissez, pas forcément très bien, qui vous dit « tu sais, je pense que je commence à croire ce message. Je trouve en moi un certain amour pour Jésus. Je trouve un certain dégoût pour le mal que je vois qui est dans ma vie. Je pense que j'ai un désir de me confier à Jésus. Que dites-vous? Au moins, juste dans vos têtes. Hey, c'est bien, c'est cool, sympa. Oui. Ou est-ce que vous sentez une joie, une reconnaissance qui est vraiment juste remplie de crainte et d'amour? Comment réagissez-vous au miracle de la grâce de Dieu? Encore une personne, Seigneur. Encore une personne. C'est magnifique. Waouh! La confiance de Paul en la miséricorde de Dieu pour les Philippiens dans le passé lui mène à une joyeuse reconnaissance. Deuxième chose, la confiance de Paul en la grâce de Dieu pour les Philippiens au présent. La confiance de Paul en la grâce de Dieu pour les Philippiens au présent. Le verset 5 parle du premier jour et il parle aussi de jusqu'à maintenant. Et dans le verset 7, il dit « Dans mes chaînes, comme dans la défense et l'affermissement de l'Évangile, vous vivez ce partenariat avec moi dans la même grâce. » Parfois c'est participation, mais c'est là le mot « communion », participation, partenariat. Vous vivez ce partenariat avec moi dans la même grâce. Si on pense de nouveau aux paraboles du semeur, il y a le sol qui oublie. Il y a un sol qui abandonne l'évangile parce qu'il y a la souffrance et la persécution. C'est juste trop dur. Non merci. Il y a l'autre qui dit c'est juste distrait par le monde, distrait par sa vie, distrait par des choses bonnes, des choses mauvaises dans la vie, mais juste distrait. Mais pour les Philippiens, c'est entièrement différent. Et ça se voit ici. Ils ont vu Paul en prison plusieurs fois. Même il y a 10 ans, quand il était là, il était en prison. Et là, il écrit depuis en prison. Et ils auraient pu très facilement dire « Bah, j'avais cru ce que tu avais dit, et là, t'es en prison, et c'est la honte, quoi. » Et ce serait beaucoup plus facile de juste abandonner complètement, de dire « Non, je ne connais pas, j'ai rien à voir avec lui, je continue ma vie comme avant. » Mais non, les Philippiens, ils ont refusé de faire ça. Ils ont refusé de lâcher cette communion, ce partenariat. Et ils ont dit, non, on est avec toi. On est avec toi 100%. Aussi, ils auraient très facilement pu dire, après que Paul soit parti, il dit, coupole, Jésus, machin, c'est très bien, c'est sympa, je crois. Hein. Et c'est super que tu fasses ton ministère, tu prêches, et j'aimerais bien voir des autres qui croient aussi, mais j'ai ma vie à vivre. Hein. C'est bien que tu fasses ça, mais j'ai aussi ma vie à vivre. Mais non, ils disent, Paul, on est avec toi 100% en partenariat. On te soutient à fond. Et ça se voit parce qu'ils viennent de lui envoyer Épaphrodite, un membre de leur église, avec un don. On ne sait pas exactement ce que c'était, mais ils ont envoyé un don pour le soutenir en prison. Donc ils ont vu cette honte, ils ont accepté cette honte. C'est-à-dire, ok, mais on reste avec Paul, on reste avec notre ami, on reste dans ce partenariat de l'Évangile, partenariat dans cette grâce, et on te soutient. Donc, je ne vais pas être découragé par la souffrance, et je ne vais pas être distrait par le monde, mais je vais vraiment écouter la parole, je vais vraiment grandir comme la quatrième sol, comme le quatrième sol dans le parabole. Et cette confiance de Paul en la grâce de Dieu pour les Philippiens au présent lui mène à une profonde affection. Donc cette confiance pour la grâce de Dieu pour les Philippiens au présent lui mène à une profonde affection. Verset 7, « Je vous porte dans mon cœur. » Ou le verset 8, « Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Christ Jésus. » Là, je dois vous partager le mot grec qui se trouve ici, parce que c'est juste trop fort. Pour tendresse, le mot en grec, je vais essayer, splanchnois. C'est juste trop bien. Et en fait, Caillou l'a déjà dit, c'est au fond de ses tripes, dans ses entrailles, littéralement, je vous chéris avec les entrailles de Jésus, avec les splanchnois de Jésus. Alors, imaginez que vous voyez un chrétien, peut-être chrétien depuis quelques années, quelques semaines, quelques décennies, qui vit sa vie, qui sert Jésus fidèlement, de jour en jour. Quelle réaction avez-vous dans vos cœurs? Pour Paul, quand il voit ça, quand il voit quelqu'un qui n'est pas découragé par la souffrance, mais qui dit, ok, c'est comme ça, mais je ne peux pas renier à l'Évangile. Et qui dit, non, je ne vais pas laisser le monde me distraire de toutes mes obligations envers mes frères et sœurs. Il a une profonde affection. Et vous, comment ça va dans votre amour pour vos frères et sœurs quand vous voyez quelqu'un qui sert Dieu fidèlement? Pour moi, c'est juste... je ne pense pas que je pourrais dire ça, une profonde affection pour quand je vois ça. C'est juste... ouf, je suis faible. Hein. Mais... Quand on voit que Jésus nous aime, aime nos frères et sœurs de ses entrailles. Mais il paraît qu'il est possible d'emprunter les entrailles de Jésus. Et ça, c'est un soulagement. Paul a emprunté les entrailles de Jésus. C'est avec ça qu'il aime les Philippiens. Même, je suis sûr qu'il était capable de les aimer, parce que vraiment, c'est magnifique de voir ça. Mais là, c'est un gros soulagement. Un gros soulagement de voir que Dieu peut nous aider à aimer les uns les autres. À avoir cette profonde affection les uns pour les autres. Et c'est à ça que la confiance de Paul en la grâce de Dieu au présent produit. La troisième chose... La confiance de Paul en la fidélité de Dieu aux Philippiens pour l'avenir. Donc, la confiance de Paul en la fidélité de Dieu aux Philippiens pour l'avenir. Alors, parce qu'il est sûr d'avoir bien compris leur passé, ils se sont vraiment convertis et ça se voit dans leur vie. Et parce qu'il est sûr de comprendre leur présent, ils voient vraiment, ils sont avec lui, ils écoutent, ils voient le fruit de leur foi en Jésus. Il peut écrire les versets 5 et 6. À cause de la part que vous prenez à l'évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant, après, et je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. Votre foi, c'est du vrai. Il voit ça. Et il est sûr, non seulement qu'il va garder les Philippiens, mais qu'il va continuer de les perfectionner jusqu'au jour du retour de Jésus. Il y a du progrès à faire pour eux, et ça se verra plus tard. On va voir ce qui manque. Il y a vraiment du progrès à faire, mais il est sûr que le progrès se fera. Et donc, attention, et donc la confiance de Paul en la fidélité de Dieu aux Philippiens pour l'avenir lui mène à la prière. La confiance de Paul en la fidélité de Dieu aux Philippiens pour l'avenir lui mène à la prière. Parce qu'il est sûr que Dieu rendra les Philippiens de plus en plus saints, il prie que Dieu les rende saints. Alors, là, je pense qu'il faut poser quelques questions à Paul. Et il est mort, je dois imaginer les réponses. Paul, es-tu sûr que Dieu les perfectionnera? Oui. Pourquoi? Parce qu'il a commencé cette œuvre bonne déjà. Paul, pourquoi le fera-t-il? Parce que je leur ai demandé de faire. C'est toi qui le convaincras? Non. Dieu ne voulait-il pas le faire déjà? Si. Pourquoi le fera-t-il alors? Parce que je leur ai demandé de le faire. Mais s'il voulait le faire déjà, pourquoi prier? Dieu m'aime. Les surprises, c'est sympa. Et je suis sûr que le Seigneur en fait plein. Mais le fait de nous engager dans la prière, c'est une façon de faire approfondir notre joie en nous. Et surtout, notre joie dans ce qu'il fait pour nous. Non seulement il a fait parce qu'il est comme ça, toutes les bonnes choses qu'on voit, non seulement il les fait parce qu'il nous aime ou parce qu'il est bon, mais il les fait parce que je l'ai demandé de faire. Il m'a écouté. Il l'a fait parce qu'il m'a écouté. Ça fait approfondir la joie. Je pense que on peut demander à quelqu'un de faire, ou quelqu'un peut faire quelque chose de bien pour nous. Donc imaginez quand vous étiez petit, votre père vous offrait quelque chose et c'était très sympa. Mais le jour de Noël, je pense que si vous ouvrez votre cadeau et vous savez ce que vous avez demandé et vous l'ouvrez, il a écouté. Il n'a pas juste donné quelque chose de sympa, mais il m'a demandé ce que je voulais et c'est ce qu'il voulait m'acheter quand même. Mais il l'a fait parce qu'il m'a écouté. Il a voulu me donner ce que je voulais. Et c'est ça, je pense, la communion, le partenariat avec Dieu. Il fait les choses parce qu'il aime nous écouter. Il aime faire ce que nous voulons. Même si c'est ce qu'il voulait faire déjà. Et quelle prière! Donc si on lit les versets 9 à 11. Et ce que je demande dans mes prières, c'est ce que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité, qu'ainsi vous sachiez apprécier ce qui est important, afin d'être sincère et irréprochable pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Donc le but, bien sûr, c'est la gloire et la louange de Dieu. Ça, c'est sa but. Son but pour eux, ça devrait être notre but pour nous tous, les uns pour les autres, la gloire et la louange de Dieu. Paul prie pour que ça puisse s'achever. Paul prie que l'amour qu'ils ont déjà, ils ont déjà l'amour, mais il prie que cet amour surabonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité. Que cet amour surabonde dans une sorte de discernement, afin de pouvoir apprécier ou discerner, tester ce qui est important ou ce qui est excellent. Donc, ils savent bien sûr déjà comment discerner entre le bien et le mal. Et je pense qu'ils savaient ça, ils savaient faire ça le jour de leur conversion, ou même, bien sûr, bien avant. Discerner entre le bien et le mal, oui. Mais là, il s'agit de plus en plus de discerner entre le bien et le meilleur, ou la petite erreur qui pourrait faire mal plus tard, de discerner ça aussi. D'habitude, j'aime bien l'hiver, mais parfois c'est juste trop. Mais d'habitude, c'est ma saison préférée. Mais j'aime bien aussi voir fondre l'hiver. Et qui n'est pas d'accord, mais ça, on sait déjà. J'aime bien l'hiver. Mais j'aime bien aussi voir fondre l'hiver. Et parfois, si on a une bonne chute de neige, toute la ville est couverte de neige. Il y a quelque chose qui nous couvre. Et c'est sympa de voir fondre ce qui couvre, ce qui bloque. Mais souvent, et surtout à Paris, il y a une période entre la chute de neige et le printemps où c'est pas de la neige, c'est juste mou et gris. Et on voit que le soleil fait quelque chose, mais c'est pas assez. Le soleil a commencé de travailler, mais un peu plus, s'il te plaît. Parce que là, c'est gris et mou et moche. Et juste, pour utiliser un mot technique, blaire. Et je pense que c'est comme ça avec nous. Et c'est l'idée que Paul décrit. L'amour peut faire fondre ce qui nous bloque, ce qui bloque notre discernement, ce qui bloque notre connaissance, notre sagesse. Et l'amour peut faire fondre ça. Mais je pense que souvent, parmi nous les chrétiens au moins, c'est pas encore terminé. Ce qui est laissé, c'est un peu blaire. C'est un peu mou. C'est pas très clair. C'est pas très réfléchi. On a un peu peur de bien réfléchir, d'avoir une réflexion claire, de poser des bonnes questions. Et je pense que c'est ça. Paul veut que leur amour, pas juste leur amour les uns vers les autres, mais juste l'attribut, juste être j'aime, quoi. C'est juste en moi d'aimer que ce trait puisse grandir en connaissance et en discernement. Que tout ce qui est mou et gris puisse continuer à fondre pour que cette connaissance et cette sensibilité puissent grandir. Et donc, comme ça, on peut être de plus en plus rempli du fruit de justice. Donc, la justice que Jésus nous a donnée par la foi en lui. On peut être de plus en plus rempli de ce fruit par l'amour qui grandit, par la connaissance qui grandit, et tout cela à la gloire et la louange de Dieu. Et donc, que se passera-t-il en cette nouvelle année 2013? J'espère que ça va ressembler de plus en plus dans ma vie, dans vos vies, dans les vies de ceux que nous aimons, qu'ils soient croyants ou pas encore. J'espère que ça va ressembler de plus en plus à la vie des Philippiens, au moins dans ce passage. Au moins dans ce sens-là, qu'on puisse être vraiment plein de fruits, déjà un peu, déjà pas distrait par le monde, pas découragé par la souffrance, et en train de grandir toujours en amour, en train de grandir en connaissance, en vraie sensibilité, pour savoir apprécier ce qui est important ou excellent, pour être sincère et irréprochable pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice. Je pense que ce serait pour nous une bonne idée de demander ça à Dieu maintenant, juste pour terminer ce moment. Donc je vais prier. Si vous êtes d'accord avec la prière, je vous invite à un fort amen à la fin. Sinon, je prierai pour vous. Donc je vais dire une courte prière. Notre Père, nous te remercions pour Jésus et la justice qu'il nous donne. Et nous voulons que nos vies soient à la gloire et à ta louange. Et donc, nous te demandons que notre amour aussi puisse abonder de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité pour que nous puissions apprécier et tester ce qui est excellent afin d'être sincères et irréprochables pour le jour de Jésus. Nous prions que nous puissions être remplis de plus en plus du fruit de justice par Jésus. Amen. Amen.
Des questions peut-être, s'il y a une ou deux.
Une ou deux questions.
Il n'y en a pas.
Ok. Pas de questions.
Ah si.
Hein, mince.
C'est au verset 9.
Oui.
Donc que votre amour augmente de plus en plus. Alors nous, dans notre version, on est en connaissance et en pleine intelligence. Toi, tu as en vraie sensibilité.
Oui.
Est-ce que tu peux un peu plus détailler juste ce passage-là en quoi est-ce que l'amour peut augmenter? Parce qu'on connaît mieux qui on aime, c'est ça?
Je pense que c'est aussi en connaissance de la parole de Dieu, de la vérité. J'ai écouté quelqu'un qui prêchait sur ce passage qui disait c'est une connaissance qui sait sentir. Une connaissance qui a un nez, qui sait voir, est-ce que là c'est, qui sait tester des choses, lorsque je suis présenté avec quelqu'un qui me raconte des choses ou quelqu'un qui a écrit quelque chose, que je puisse savoir est-ce que ça c'est vraiment en accord avec la Bible, pour vraiment pouvoir comprendre ce que Dieu nous a dit. Et donc je pense que c'est l'idée de pouvoir, la capacité de bien discerner ce qui est excellent, ce qui est bien. Donc une certaine sensibilité qui vient de plus en plus naturellement pour discerner ce qui est bien, ce qui est de l'erreur, même si c'est des petites erreurs. Je sais pas si...
Et le lien avec l'amour, c'est qu'on pourrait aspirer à ce genre de choses.
Oui, et je pense que c'est avec l'amour que ça grandit. Plus que j'aime Dieu, plus que je vais étudier sa parole, plus que je vais mieux le connaître, plus que je vais être sensible à l'erreur. Et aussi, plus que j'aime mes frères et sœurs, plus que j'aime ceux qui ne sont pas chrétiens, plus que je veux être sensible à l'erreur pour protéger, pour avertir. Je pense. Mais tout ce que je dis, il faut vérifier aussi. Donc, si ce que je dis n'est pas en accord avec la Bible, rejeter. Hein. Non, vraiment. Une autre question? C'est bon?